Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Il faut toujours prendre l'habitude de prononcer ce genre de paroles sur les autres. Ce n'est pas juste que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça, c'est trop simple. Parfois, il faut juste regarder la personne et tu lui dis, tu es quelqu'un d'important, tu sais ça. Tu es quelqu'un de très spécial. Tu as une grande destinée, est-ce que tu sais ça? Tu es un prince de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu es quelqu'un d'extrêmement important pour Dieu. Moi, ma fille, je la bombarde tellement de ce genre de paroles que sa maîtresse à l'école me dit, votre fille, elle est remplie de trop d'assurance, votre fille. Elle est trop remplie d'assurance. C'est-à-dire, elle, pendant que tout le monde pleure dans la salle, elle regarde tout le monde bizarrement, mais pourquoi il pleure? Hein? Je la bombarde tellement de paroles tous les matins que Dieu fait. Depuis qu'elle est née, je prie tous les matins sur elle. Toujours. Avant qu'elle sorte de la maison, je lui impose toujours les mains et je prie. Je déclare des paroles. Et je ne déclare pas n'importe quelle parole. Hein. Je la remplis de paroles dangereuses. J'ai dit, toute personne qui lèvera le regard sur ma fille pour ne serait-ce qu'en penser, avoir l'intention de lui faire du mal, cette parole revient contre lui à l'instant même où il l'a pensée au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce genre de paroles sur elle. Toute personne qui viendra avec intention de nuire à son intégrité physique ou bien à sa santé, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'elle tombe entre les mains du Seigneur à l'instant même où elle a pensé cela et elle tombe sur place liée. Je déclare plein de paroles. Donc quand elle part, elle est bombardée. Et quand elle marche, je lui dis toujours, sache que quand tu marches, à côté de toi, il y a toujours un ange. Il y a toujours un ange qui est là. C'est biblique, hein, que tous les enfants ont toujours un ange à côté d'eux. C'est biblique. Il y a toujours un ange protecteur qui est là à tes côtés et qui veille sur toi. Et faut le faire pour les autres, mais il faut aussi apprendre aussi à le faire pour toi-même. Tu prends le temps de te regarder dans le miroir et puis tu déclares des paroles sur ta vie. Tu dis, Seigneur, oui, entends mon cœur, mais je ne suis pas n'importe qui. Et avec toi, j'y arriverai au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis encore à quelqu'un, tu vas y arriver, assure-toi. Tu vas y arriver. Gloire à Dieu. Comment allez-vous très bien ce matin? Comment allez-vous très, très, très bien? Très, très. Tu rajoutes toujours un très, au cas où tu ne connais pas. Bienvenue encore à l'église de Dieu, à la maison du bâtisseur. C'est toujours un privilège pour nous d'être là. Et pour moi, c'est le jour le plus important de la semaine parce que c'est le jour que l'on passe en famille. Hein? On est en réunion de famille, vous savez pas. On est en réunion de famille. On va parler des choses du royaume. Ah oui, on va parler des choses du royaume. Le royaume, c'est le message le plus important qu'il faut annoncer, qu'il faut enseigner, qu'il faut prêcher. Il y a tellement de gens qui ne savent pas ça. Tellement de gens qui ne savent pas ça. Dans le royaume, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un thème qui est tellement vaste que Jésus-Christ a dû prendre 40 jours. Enfin, 40 jours n'ont pas suffi à Jésus-Christ pour tout enseigner. Vous n'avez jamais entendu parler du plus long séminaire qui ait jamais eu lieu sur terre. La Bible dit dans le livre des Actes que Jésus-Christ, lorsqu'il fut ressuscité, parla à ses disciples et leur enseigna les choses du royaume pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dormi. Il a juste enseigné 40 jours, 40 nuits. Il faut bien prendre les mots au sérieux que Dieu utilise. Si Jésus-Christ a pris le temps d'enseigner les choses du royaume pendant 40 jours, alors il faut dire à ton pasteur que, pasteur, c'est très important de nous enseigner sur les choses du royaume. On a besoin de comprendre ça parce que c'est très... Jésus-Christ a pris le temps de l'enseigner pendant tout son ministère et pendant 40 jours. Jésus-Christ a enseigné toute sa vie le royaume. Les apôtres ont enseigné toute leur vie le royaume. Paul a enseigné toute sa vie les choses du royaume. Luc Ondiaz va enseigner toute sa vie les choses du royaume. Amen. Parce que le royaume, c'est le message qui change les vies. Ça fait des années que tu vas à l'église et puis tu te rends compte que ta vie n'est toujours pas changée. Tu as toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes oppressions, les mêmes tentations. Tu n'arrives pas à lier une prière d'une heure. Tu ne sais plus quoi dire au bout de 5 minutes. Ça veut dire que tu n'es pas suffisamment assise dans les choses du royaume. Le royaume te parle de ton identité. Le royaume ne te parle pas de richesse, etc., comme certains essaient de le faire croire. Le royaume nous parle de notre identité en Christ. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, dans la Bible, nous appelait, nous donnait d'autres noms que les noms que le monde nous donne. Tu veux savoir quel nom le monde te donne? Le monde t'appelle chrétien. Mais tu n'es pas chrétien. Tu es fils de Dieu. Jésus-Christ t'appelle également la lumière du monde. Tu es censé rayonner et briller autour de toi, faire rayonner tout ce qu'il y a autour de toi. C'est comme ça qu'il t'appelle. Jésus-Christ t'appelle aussi le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Tout ça sont les noms que Dieu te donne. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église dont nous faisons partie du corps. Tu es un membre du corps de Christ. Donc si tu es un membre du corps de Christ, Christ et toi, vous êtes un. Et si Christ et toi, vous êtes un, quand on dit que Christ est l'étoile brillante du matin, ça veut dire que toi aussi, tu es l'étoile brillante du matin. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Si tu es l'étoile brillante du matin, comme Jésus est l'étoile brillante du matin, le matin, quand tu te lèves, brille. Une étoile, elle ne se pose pas de questions. Elle brille, c'est tout. C'est sa nature, elle brille. Cet enseignement-là, je vous assure, ça a changé ma vie. La lumière, quand vous êtes dans une salle et que vous appuyez sur un bouton, quand vous appuyez, elle rayonne, c'est tout. Elle ne se pose pas de questions, elle rayonne. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on se pose des questions pour rayonner? On passe plus notre temps à nous plaindre de nos conditions, etc. C'est pour cela qu'il est très important d'enseigner les choses du royaume, parce qu'il y a une grande crise identitaire dans l'Église. Les églises sont remplies de gens qui ne savent pas qui ils sont. Et parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils n'opèrent pas comme ils devraient opérer sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu se gratte la tête en ce moment sur son trône. Et il dit, comment je vais faire avec mon église là, vraiment, particulièrement celle qui est au Gabon. Hein? Donc je voudrais que tu te tournes encore vers quelqu'un et que tu lui dises, rayonne. Rayonne et brille. Hein? Brille. Gloire à Dieu. On va continuer, on va rentrer dans le message, mais juste avant, nous rappeler qu'hier, on a eu un très très bon moment. Enfin, qui était là hier à l'atelier qu'on a eu? Ah! Moi, je souris, chérie. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a annoncé l'atelier. Là, j'en vois ici qui étaient là dimanche dernier, on a annoncé l'atelier, mais ils ne sont pas venus hier. Ça veut dire que pour toi, l'entrepreneuriat n'est pas une priorité. Ça veut dire que pour toi, créer ton entreprise, ce n'est pas quelque chose d'important. Tu avais plus important à faire, mais c'est pas grave, que Dieu te bénisse. Hein? Hier, je vous assure, on était, une dizaine. Et la première chose que je leur ai dit quand on a commencé, je leur ai dit, mais normalement ce genre d'atelier, normalement ce genre de thématique, on devrait voir les gens se ruer à la porte. 21 étapes pour créer un business solide et efficace. Qui n'a pas envie de créer un business solide et efficace? On a parlé ici de choses très importantes concernant les affaires. Marketing, communication, comment lancer un business, comment s'y prendre, les erreurs à ne pas commettre, etc., etc. C'est des choses que moi, personnellement, je viens donner à l'église gratuitement, mais vraiment gratuitement. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu, c'est que quand c'est gratuit, ils méprisent. Quand c'est gratuit, il n'a qu'à faire son truc, nous on fait autre chose. Par contre, quand c'est payant, là, on se demande, mais pourquoi il fait payer l'évangile? Ça veut dire quoi ça? Hein? Quand c'est gratuit, les gens méprisent. Quand dès que tu mets sur un papier entrée et participation libre, les gens disent, c'est pas important. Mais pourtant, les ateliers, comme celui d'hier, je vous dis hein, la vérité, hein, ce sont des choses qu'on donne en entreprise et qu'on fait payer cher. En entreprise, les païens payent ça cher. Une fois, j'ai fait une formation de 2 jours. On m'a payé 1 million de francs CFA. 2 jours. J'ai enseigné de 9h, pause à midi jusqu'à 13h, de 13h jusqu'à 18h. 2 jours comme ça, ils m'ont donné 1 million. Ils ont dit, gars, même 1 million là, c'est vraiment cadeau. Quoi. Tellement ce que tu nous as donné, c'est... Tu vas nous faire gagner trop d'argent avec tout ce que tu nous as dit. Mais quand on donne ça à l'église, les gens viennent les mains dans les poches. Ah, ça. Donc moi, j'ai envie de nous interpeller. Quand on a quand vous entendez quelque part, pas seulement à la maison du bâtisseur, hein, quand vous entendez quelque part un sujet que quelqu'un va donner et que vous savez que ce sujet peut vous apporter beaucoup par rapport à votre vie, allez-y. Parce que la clé de la réussite, c'est l'instruction. C'est pour cela que Dieu dit dans le livre de Osée que mon peuple se meurt faute de connaissance. Parce que les gens n'ont pas la connaissance. La connaissance va t'ouvrir beaucoup de portes. Tu n'as pas vu que parce que tu n'es pas allé à l'école longtemps, celui qui est à côté de toi au boulot, parce qu'il a bac plus 5, il est mieux payé que toi. Parce que lui, il a plus de connaissances que toi. Ni plus ni moins. Donc, il faut qu'on s'instruise et qu'on se lève pour commencer à prendre des territoires pour Christ dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut que l'Église se lève. Et particulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les gens souffrent trop. Les gens souffrent tellement qu'un pasteur a eu l'idée géniale d'appeler son église à arrêter de souffrir. Mais oui, un jour il a eu un cri du cœur, il a dit arrêtez de souffrir les enfants de Dieu, vous souffrez trop. Et puis il a dit on va donner son nom à l'église et son église est remplie, hein, c'est un grand ministère ici. Donc normalement tous les gens qui vont là-bas vont arrêter de souffrir, non? Bon, allez vérifier. S'ils continuent à souffrir, c'est qu'il y a un souci quelque part. Hein? Gloire à Dieu. Donc, l'Église doit se lever pour prendre des territoires. Moi, je ne lésine pas sur la parole. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Et moi, je crois que Dieu dit la vérité. Et parce que Dieu dit la vérité, on doit dire aussi la vérité. On doit dire aux gens ce qu'ils doivent entendre, pas ce qu'ils veulent entendre. Même si ce qu'on te dit ne te caresse pas dans le sens du poil que tu veux, mais il faut qu'on te le dise, parce qu'il faut qu'on parle à ton esprit. Quand Dieu te parle, il parle toujours à ton esprit, pas à ta chair. Toujours à ton esprit. Et Dieu veut que tu te lèves et que tu prennes possession de ton héritage en Christ. Et quand on dit possession de ton héritage en Christ, là, c'est pas seulement des choses spirituelles. Hein. C'est pas seulement des choses spirituelles. Ça concerne tous les domaines de ta vie. S'il y a un domaine de ta vie dans lequel tu ne possèdes pas encore ton héritage, ça veut dire que ce domaine-là, tu ne dois pas lâcher ça. Tu dois t'instruire, tu dois monter en puissance et prendre possession de ce qui t'appartient dans ce domaine au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Et le domaine des affaires aussi est très important. Il y a un temps où tu seras employé dans une entreprise, c'est une très bonne chose. Tu vas apprendre beaucoup de choses en étant employé dans une entreprise. Mais il y a un temps dans ta vie où tu dois entrer et prendre ce qui t'appartient dans le domaine auquel Dieu t'appelle, c'est-à-dire entreprendre. Parce que Dieu a déposé en nous des dons, des talents, des richesses. Il y a des choses que tu fais naturellement sans faire d'effort. Et Dieu te demande de pouvoir créer de la richesse avec ces dons et ces talents-là. Si par exemple tu sais très bien coiffer sans faire d'effort, sache qu'il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour que tu les coiffes bien. Si tu sais bien préparer à manger, sache qu'il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour manger ta nourriture. Si tu sais bien parler en public et que tu sais former, sache qu'il y a des gens qui sont prêts à payer cher pour recevoir tes formations. Quel que soit ce que tu sais faire, quel que soit. Trouve juste ce que Dieu a déposé en toi et libère-le. Et crée un business derrière ça. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Ça, c'est petit, ça. Cette salle-là, elle est trop petite pour Dieu. Il faut que cette salle-là soit remplie à déborder. Et demain, on puisse dire, il faut qu'on prenne plus grand. Et quand le pasteur va dire, bon, l'église, on construit. Pasteur, on construit quoi? On construit un autre bâtiment. Combien? 500 millions de francs CFA. Ah! Non, qui va se lever pour sortir cet argent? C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'églises qui prient dans les garages. Et j'appelle ça des grottes même. Parce que les gens n'ont pas suffisamment de moyens pour se construire des bâtiments. Amen. Il faut comprendre toutes ces choses-là. L'Église est trop en retard dans la francophonie. Gloire à Dieu. Donc, quand on a ce genre de sujet, quand tu entends ça, viens. Viens. À la fin du mois, on a également un autre séminaire sur le mariage. On a pris le temps d'organiser ce séminaire parce que c'est quelque chose de trop important pour les gens. Il y a trop de problèmes de couple, trop de problèmes sentimentaux. Et si tu n'es pas encore marié, tu as plutôt intérêt à savoir comment t'y prendre pour organiser ton mariage. Parce que si tu vas là-bas en désordre, tu vas avoir de gros soucis. Tu vas avoir de très, très gros soucis. Parce que la personne que tu auras à côté de toi, c'est la personne, tous les matins, tu te réveilles, elle est là. Quand tu te couches le soir, elle est là. Donc, cette personne est très importante à discerner. Donc, si tu te trompes, c'est compliqué. Amen. Donc, soyons là et invitons d'autres personnes. Il faut que le jour de ce séminaire, et c'est un séminaire qu'on va donner régulièrement dans l'année, on va rester très, très, très longtemps sur le sujet du couple, du mariage et de la famille parce que c'est trop important pour Dieu. La famille, c'est le point de départ de tout. Et c'est pour cela qu'on doit enseigner là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la culture du royaume? La culture du royaume, c'est le thème sur lequel nous sommes depuis maintenant 3 semaines. On était sur la priorité du royaume et puis on a bifurqué sur la culture du royaume. Et c'est un sujet important. Aujourd'hui, je voudrais qu'on va se focaliser sur ce point. Penser comme Dieu pour changer notre monde. La semaine dernière, on a parlé d'un élément d'une extrême importance qui pose beaucoup de problèmes aux enfants de Dieu, c'est-à-dire vaincre notre chair. Vaincre notre chair. Notre chair nous cause beaucoup de soucis. Elle nous cause beaucoup de problèmes quand elle n'est pas soumise à notre esprit et à Dieu. Et quand on ne sait pas comment soumettre, comment nous abstenir de certaines choses, on se retrouve à faire des choses alors qu'on sait que ce n'est pas bien. Et c'est pour cela qu'on a pris le temps de s'arrêter sur ce point. C'est bien beau d'enseigner sur des sujets qui excitent, sur des sujets qui te boostent, sur ta destinée, etc. Mais si tu as des problèmes charnels, ta destinée est en péril. Vous n'avez jamais entendu des pasteurs qui ont des grands ministères et puis on a entendu qu'il a couché avec plein de filles dans l'église et puis le ministère est tombé. Ce monsieur avait un problème charnel qu'il n'avait pas résolu. Et toute sa destinée, c'est-à-dire son ministère, est à terre. Et il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Pareil, des hommes politiques qui étaient à la tête de grandes organisations ou de pays entiers qu'on a entendu, je ne sais pas moi, comme Bill Clinton aux États-Unis, marié depuis je ne sais pas combien d'années avec une femme et des enfants, et puis on entend des choses vraiment sales avec une femme. Ça salit, ça ternit son image pour toujours, même si aujourd'hui il continue à faire des choses. Mais quand on dit Bill Clinton, on pense toujours à cette histoire. Ça restera attaché à sa destinée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Problème de chair. Donc, quand tu décides de rentrer dans le couloir de ta destinée avec Jésus, assure-toi que la chair, ce problème-là est réglé. Parce que si ce problème n'est pas réglé, je t'assure, Satan va t'attraper par rapport à ça, tôt ou tard. Parce que quand Satan a tenté Jésus, il n'a pas réussi à le faire tomber. Mais la Bible dit que Satan s'éloigna et attendit un autre moment favorable. Un autre moment favorable. Et tout le long des évangiles, on voit que Satan est en train d'essayer de tenter Jésus. On ne cite pas son nom, mais on voit seulement au travers des gens qui essaient de mettre tout le temps des pièges à Jésus ou bien de l'accuser. Derrière, c'est toujours Satan, en fait. Le but, c'était de toujours faire tomber Jésus-Christ. Amen. Donc, la chair est un problème très important à résoudre. Et c'est pour cela qu'on a pris le temps de s'attarder là-dessus. On a dit beaucoup de choses, mais je ne vais pas y revenir. Tu peux être sincère, mais être disqualifié à cause de ton comportement. Tu peux avoir beaucoup de talent, tu peux être quelqu'un de très sincère, mais à cause de tes addictions, à cause de tes légèretés, à cause de ton corps que tu n'arrives pas à maintenir, que tu n'arrives pas à garder sous discipline, tu peux te disqualifier totalement par rapport à ta vie, par rapport à une situation, une opportunité, peu importe. Donc, quelle que soit ta sincérité, si tu n'es pas capable de te maîtriser, ta chair peut te poser des problèmes. Et c'est ce qu'on avait dit. On a également dit que les œuvres de la chair, Galates 5, 22, Paul nous dit qu'à cause des œuvres de la chair, on n'héritera pas le royaume. Et les enfants de Dieu ont toujours tendance à croire que les œuvres de la chair s'arrêtent seulement à coucher avec les hommes ou avec les femmes. Faux. Il nous a cité plein d'œuvres de la chair. Même avoir un mauvais caractère, c'est écrit dans la Bible, c'est une œuvre de la chair. La colère, c'est une œuvre de la chair. Mal parler à son prochain, c'est une œuvre de la chair. Et ne serait-ce qu'une petite parole peut à tout jamais détruire ta vie. Une parole que tu dis à ton conjoint peut l'amener à demander le divorce, par exemple. Et ça détruit ta vie. La chair. Est-ce qu'on peut dire avec moi la chair? Et les citoyens du royaume des cieux que nous sommes sont des gens qui ont appris à crucifier leur chair et à la maintenir sous discipline. Amen. Parce que dans notre culture, dans la culture de notre pays appelé le royaume des cieux, notre chair, elle ne nous commande pas. On marche par l'Esprit de Dieu, et la chair est soumise. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu dois crucifier ta chair. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, crucifie ta chair. Hein? Crucifie-la. Même s'il ne réagit pas, il sait de quoi tu parles quand tu lui dis ça. Et là, nous allons nous poser juste quelques minutes sur ce sujet-là. Penser comme Dieu pour changer notre monde. On est toujours dans le sujet de la culture et on parle énormément du monde. Et je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 12, à partir du verset 1. Moi, je vais la prendre dans la version Parole vivante parce que je la trouve beaucoup plus intéressante. Et je vais la lire pour vous. Donc, je te conseille de suivre avec moi si tu n'as pas la version Parole vivante, mais tu peux également prendre la version Seconde ou la version Semeur. C'est Paul qui parle, il nous dit, « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. » C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Une autre version dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Est-ce qu'on peut dire avec moi mentalité? Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Que quelqu'un dise Amen. L'un des principaux problèmes que Dieu a avec nous lorsque nous venons à Christ, c'est notre mentalité. Je n'aurai de cesse de le dire. Notre mentalité, c'est notre système de pensée, c'est notre manière de voir le monde autour de nous, c'est notre manière d'appréhender les circonstances qui nous entourent. Si Dieu n'a pas réussi à résoudre le problème de nos pensées, il ne peut pas travailler avec nous. L'un des gros soucis que Dieu a avec les chrétiens, avec ses enfants, c'est qu'ils pensent comme les gens du dehors. Et je l'ai dit la dernière fois, tu es né et tu as grandi dans le monde. Tu as été habitué avec le monde. Tu as appris à penser comme les gens du monde. Tu as appris à parler comme les gens du monde. Et puis un beau jour, on vient t'annoncer l'évangile et tu donnes ta vie à Jésus et tu arrives dans l'église. Et quand tu arrives dans l'église, on te parle de royaume, on te parle de Jésus et la vie, on te dit que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, on te dit que tu es roi, on te dit que quand tu pries, tu peux contrôler les circonstances, quand tu pries, tu peux proclamer des paroles dans l'air et incliner les temps et les circonstances comme Jésus a incliné la tempête. On te dit que tu peux faire la même chose, on te dit que tu peux imposer les mains aux gens et puis ils seront guéris. Tu dis, ah, ça, on peut faire ça quand on est en Christ. On te dit oui. Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc au chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. » Quand tu vois un fou en train de courir dehors tout nu dans la rue, la réaction des trois quarts des gens, c'est quoi? Ils passent, hein? Et puis on laisse le fou, non? Mais Jésus dit que tu peux aller voir ce fou, tu lui imposes les mains et tu chasses l'esprit qui est dans lui. Et puis toi, ton frère va te dire, « Gars, faut bien prier. Hein. » Parce que sinon, le foulard, il peut te bastonner là-bas. Hein. Oui? Mais Dieu dit que tu peux aller régler le problème de ce gars. C'est pour ça que Jésus, un jour, met la vie de tous ses disciples en péril en traversant tout un lac. C'est l'épisode où il dit à la tempête, « Calme-toi. » Et puis il dit, oh Jésus, nous périssons. Et Jésus se lève, il dit, oh vous aussi, homme de peu de foi, tais-toi, silence, la tempête se calme. Et la Bible dit qu'arrivé de l'autre côté, le lendemain matin, il alla vers qui? Il alla trouver un homme qui était possédé d'un démon, le démon de Gadara. Et la Bible dit que cet homme-là habitait dans les cimetières. Et il terrorisait toute la région. C'est ce que la Bible dit, hein. Il terrorisait toute la région, pas juste les quartiers, toute la région. C'est-à-dire quand il sortait de son cimetière, là, tout le monde fuyait. Donc, c'était un sérieux problème pour la région, ce gars-là. Donc, Jésus a entendu parler de lui, il a dit, mais il faut régler le problème de ce gars-là. Et quand Jésus-Christ vient chasser les démons qui se possèdent ce gars, il se rend compte que c'est compliqué et il pose une question à cet homme, enfin au démon qui le possède, et il dit, comment t'appelles-tu? Et le démon lui répond, nous nous appelons Légion, parce que nous sommes plusieurs. Donc, ce gars était possédé de beaucoup de démons. Et ensuite, ils supplièrent Jésus de les laisser sortir et d'aller et de leur permettre d'aller dans les ports qui étaient juste à côté. Et la Bible dit, Jésus le leur permit. Le problème, c'est quoi? C'est que pendant toute la scène, les ports étaient en train d'assister à la scène. Les ports aussi comprenaient ce qui s'est passé. Donc, quand les ports entendent les démons... Les démons demandent à Jésus, laisse-nous aller dans les ports, ils disent qu'ils nous. Et Jésus regarde les ports et il dit, je vous permets. Regardez ce que la Bible dit juste après. La Bible dit juste après, dès que les démons entrèrent dans les ports se jetèrent par-dessus la falaise. Vous voulez savoir pourquoi les ports se sont jetés par-dessus la falaise? Parce que les ports ont dit, on monte, on descend, on refuse de vivre avec des démons en nous, on préfère se suicider. Et les pauvres eux-mêmes se sont suicidés. Parce qu'ils ont dit, on ne peut pas vivre avec des milliers de démons en nous. Vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions. Il faut bien lire la Bible. Pourquoi les pauvres se sont jetés par-dessus la falaise dès que les démons sont entrés en eux? Ce n'est pas les démons qui ont voulu les tuer. C'est les pauvres eux-mêmes qui ont sauté. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, je rentre dans les choses et après, ça me fait oublier ce que j'ai envie de dire. Donc, le problème que Dieu a avec nous, c'est notre manière de penser. Est-ce qu'on peut dire avec moi nos pensées? Donc, Dieu doit régler ce problème. Dès que le Saint-Esprit entre dans ta vie, il commence à opérer ce que j'appelle souvent une rééducation royale. C'est-à-dire, il recommence à rééduquer ton système de pensée. Si Dieu dit que tu es roi, alors il va commencer à t'apprendre à penser comme un roi. Un roi, il a une manière d'être, de se tenir debout, de parler, de se comporter. Et c'est comme ça que la Bible t'appelle. Tous les matins, quand tu te lèves et que tu vas au boulot, tu te tiens au milieu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais sache qu'au milieu d'eux, tu es un roi. Et si il arrive un jour que tu es dans une salle et que le président de la République de ce pays entre dans la salle, alors que tout le monde va se prosterner devant lui, toi, tu restes debout. Il va venir te saluer et quand il te demandera « Pourquoi ne te prosternes-tu pas comme les autres ?» Tu dis « Parce que je suis roi, monsieur. » Use juste de sagesse pour lui dire ça. Trouve les bons mots. Moi, je parabole. Hein? Parce qu'on voit tellement de gens qui ne savent pas qui ils sont. Parce que même s'ils sont en Christ, leur système de pensée n'a pas été renouvelé. Et quand ils se tiennent devant les gens du monde, on dirait qu'ils ne sont plus en Christ. Ils rentrent dans le bureau de quelqu'un d'important et puis tu le vois supplier comme si c'était un chien. Alors qu'il va à l'église tous les dimanches. Et Dieu dit, voici un problème d'identité que ce gars-là a. Notre système de pensée. Et le diable sait ça. Le diable sait que quand il tient les pensées de quelqu'un, quand les pensées de quelqu'un ne sont pas renouvelées, il va utiliser ça pour dominer sur la personne. Le diable sait que le meilleur moyen de contrôler la vie d'une personne, c'est de contrôler ses pensées. Quand quelqu'un contrôle ta manière de penser, il te contrôle. Vous n'avez jamais vu ça? Particulièrement quand vous êtes amoureux ou amoureuse. Quand tu deviens amoureux de quelqu'un, pas quand tu tombes, on ne tombe pas amoureux, on devient amoureux. Hein? Juste correction. On ne tombe pas. Hein? On devient amoureux de quelqu'un. Vous n'avez jamais entendu ce genre de langage dans le monde? Elle est tombée enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte. La Bible dit qu'elle est devenue enceinte. On ne tombe pas. Ah vraiment, le monde nous a gaspillés. C'est quelque chose. Hein? Le diable sait que pour contrôler la vie de quelqu'un, il faut contrôler ses pensées. Et parce que le diable sait que en contrôlant tes pensées, il contrôle ta vie, il va faire tout pour polluer tes pensées. Et c'est pour cela que tout autour de nous, est fait pour contrôler nos pensées. L'information, les médias, les journaux, tout est fait pour contrôler nos pensées et pour nous amener à penser dans, amener tout le monde à penser de la même manière. Est-ce qu'on peut dire avec moi la pensée? Quand tes pensées sont entre les mains de quelqu'un, Dieu a un véritable problème. C'est que Dieu ne peut pas te contrôler. La première chose que Dieu te demande quand tu viens à Christ, c'est ton cœur. Dieu veut ton cœur parce que le siège de tes pensées, c'est ton cœur. C'est pour cela que Salomon dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 23, je ne me rappelle plus du verset, comment il dit ça? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, pourquoi? Parce que c'est de ton cœur que viennent tes pensées. Tes pensées t'amènent à être. Tes pensées t'amènent à poser des actes. Quand tu vois quelqu'un qui pose des actes, quand tu vois quelqu'un qui commet un péché grave, etc., sache que bien longtemps avant, il avait déjà commencé à penser. Et il ne fait que réaliser, matérialiser ce qu'il y avait dans son esprit. Ni plus, ni moins. Et le diable sait ça. Et c'est pour cela qu'il veut contrôler nos pensées. On avance. J'ai envie de dire encore, j'ai envie encore d'aller plus loin. La troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale a lieu en ce moment même où je vous parle. La troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale s'appelle la guerre de l'information. C'est la guerre de l'information. Celui qui possède l'information possède les gens. C'est pour cela que les médias sont très très importants. Et c'est pour cela que j'ai pour habitude de dire, fais très attention à ce que tu écoutes et ce que tu regardes à la télévision. Parce que tout est manipulé. Tout est fait pour vous amener à penser d'une même manière. La Bible nous dit dans le premier livre de Jean, au chapitre 5, au verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde et sa culture entière est sous la puissance de qui ? Du malin. » Si le monde est sous la puissance du malin, ça veut dire que le monde, le mot monde ici, je l'ai dit la semaine dernière, c'est un mot grec que l'on prononce cosmos, K-O-S-M-O-S, cosmos, qui veut simplement dire une manière de penser générale. C'est-à-dire tout le monde pense de la même manière. Tout le monde dans le pays, tout le monde dans la nation a embrassé des valeurs, a embrassé des principes. Et Dieu dit que tu ne dois pas embrasser ces principes-là. Parce que ce monde-là est sous la puissance du malin. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui se laisse aller aux choses du monde, qui embrasse le monde ou qui participe aux choses du monde, sans même qu'il s'en ait rendu compte, il est déjà sous la puissance du malin. Exemple. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de manger aux alentours de 20h et puis j'allume la télévision. Et quand j'allume la télévision, je mets TF1. La chaîne Une Française. Et puis, il y avait le concours de chant, la célèbre en France, The Voice. Et il y avait les quatre finalistes. Et parmi les quatre finalistes, il y a un frère en Christ que je connais très bien. C'est le black, le noir. C'est un frère en Christ. Il est très connu au niveau de l'église en France. Il organise des concerts de gospel, louanges, tout ce que tu veux. Et puis, un beau jour, tout le monde l'a vu aller participer à cette émission. Tant mieux pour lui, il est arrivé en finale. Je n'ai pas regardé la fin de l'émission, je ne sais pas si c'est lui qui a gagné. Mais quand je vois le gars, je n'ai pas reconnu le gars que je connaissais en France. Il a fait des raies maintenant sur la tête, il danse bizarrement comme tout le monde, il se tourne comme tout le monde, etc. Pour lui, il se dit, ça n'affecte pas ma foi. Je participe juste à un événement. Mais je crois toujours en Jésus. Dieu dit qu'il y a très longtemps que tu es loin de moi. Tu es déjà sous la puissance de l'autre, sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu vas aller encore plus loin dans ces choses-là, tu vas carrément te perdre. Parce que ta foi va t'être affectée et tu finiras par te perdre. Le monde est sous la puissance du malin. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est régi par l'information. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chaînes d'information. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention aux chaînes d'information que tu regardes ou encore les radios que tu écoutes. RFI, France 24. Tu n'as pas remarqué qu'à peine tu as mis France 24, ça fait seulement que 5 minutes, tu as déjà peur. Parce qu'ils te dépeignent un monde qui est sous le chaos, qui est dans le chaos total. Voilà, il y a 200 filles qui ont été enlevées au Nigeria. Ouh, ça peut arriver au Gabon aussi. Voilà, il y a une bombe qui a été posée à tel endroit. voilà, il y a telle personne qui a démissionné. Voilà, au Gabon, ça va mal. Ça va très, très mal au Gabon. Vous allez sur tous les journaux, sur Internet, on vous dit, le Gabon va très, très mal. Vous allez voir vos amis, ils vont dire, oh, gars, au pays, en ce moment, ça va vraiment mal. Hein. Oh, 2016, là, ça va être difficile. Ça va vraiment très, très mal. Oh, c'est chaud. Ali Bongo a des soucis à se faire. Hein. Oh, ça va très, très mal. Les Gabonais souffrent, les Gabonais souffrent, les Gabonais souffrent. Toi aussi, tu commences aussi à parler comme tout le monde. Les Gabonais souffrent, les Gabonais souffrent. Donc, moi aussi, je souffre, je souffre, je souffre. Donc, il faut changer, il faut que ça change. Oh, on n'a pas d'eau en Gondje. Oh, les taxis, c'est difficile. Oh, les Gabonais souffrent. La vie est dure, la vie est dure. Avant-hier, j'entendais encore un banquier qui me disait, oh, tu sais, frère, il n'y a pas d'argent dans le pays. Hein. Pourtant, il brasse l'argent toute la journée. Hein. L'argent de ses clients. Mais il dit, il n'y a pas d'argent. Mais pourtant, il tient de l'argent dans ses mains tous les jours. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Donc, à force d'entendre les gens parler comme ça, toi aussi, tu commences aussi à parler comme ça. Tu commences à le croire. Et tout ça, ce sont des informations que les médias ne font que véhiculer. Et qui est derrière? Les médias du monde entier, particulièrement les médias francophones. Vous ne le savez pas, mais c'est une société que l'on appelle l'AFP, Agence Française de Presse. Si vous regardez toutes les chaînes d'information, au même moment, vous zappez, vous allez vous rendre compte que toutes les chaînes, sujet après sujet, elles disent toutes la même chose, voire au mot pour mot. Parce qu'en fait, ce sont des dépêches de journalistes qu'on leur envoie. Et eux, ils ne font que lire les dépêches que l'AFP leur envoie. Et l'AFP, c'est qui est derrière? C'est un certain nombre de personnes qui ont décidé de contrôler le système de pensée des gens dans le monde. Et leur ligne éditoriale, c'est la peur. Il faut faire peur aux gens. Il faut faire croire aux gens que le monde va mal. Le monde ne va pas si mal que ça. Hein. Il y a des belles choses aussi qui arrivent dans le monde. Hein. Vous savez, au journal télévisé de 20h, on peut raconter qu'une maman a donné vie à un enfant, c'est une bonne nouvelle. Hein. On peut dire que, voilà, il y a eu un taux de réussite de 80% au bac, ce serait pas intéressant. Mais pourquoi quand tu allumes la télévision, 80% des informations, c'est la guerre en Syrie? Est-ce que tu vis en Syrie? C'est ton problème ce qui se passe en Syrie? Oh, la Syrie, Bachar al-Assad, oh là là, le gars, c'est un tyran. Mais on s'en fout, on est au Gabon. On a des problèmes au Gabon, il a encore réglé leurs problèmes en Syrie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On essaie de véhiculer en fait la peur pour maintenir les gens dans une ignorance. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ça, l'Église ne s'en rend pas compte. Et l'Église ne s'en rend pas compte que c'est déjà rentré à l'intérieur. On avance. Au lieu d'écouter les mauvaises informations, écoute la parole de Dieu. Au lieu d'écouter les mauvaises nouvelles, écoute la bonne nouvelle du royaume des cieux. Au lieu de lire l'Union, vous n'avez pas remarqué que tous les matins, les Gabonais ont tous un réflexe, ils s'arrêtent tous pour acheter l'Union. Tous. Vous rentrez dans les bureaux, ils ont tous l'Union. Moi, je n'achète pas l'Union, personnellement. Je n'achète pas l'Union. Parce que je sais que je vais trouver ça au bureau avec des collègues. Ou... non, je n'achète pas. Donc, quand je vais là au boulot, je vois une Union et j'en vois plein. Donc, je prends, je lis. Ça se lit en 30 secondes. Hein. Il n'y a rien. Une fois, il y avait un monsieur qui était en train d'acheter l'Union et puis j'entends un autre qui fait « Bon, qui est mort aujourd'hui ?» Parce que vous n'avez pas remarqué qu'en couverture de l'Union, il y a toujours une histoire de mort. Parce qu'on veut toujours te faire croire que la mort est bien présente. Et toi, tu es là sans t'en rendre compte. Tu es en train de manger ça. Sans t'en rendre compte. Tout le monde lit l'Union. Tout le monde regarde le journal de 20h. Vous n'avez pas remarqué que le journal de 20h commence à 20h et jusqu'à 20h25, on ne vous parle que de politique. Et les 5 dernières minutes, on vous parle du PDG. Il ne faut pas que je dise trop les noms, sinon on va venir m'attaquer ici. Pourquoi est-ce qu'on vous parle pendant 25 minutes que de politique? Pour vous faire croire que le monde est conduit que par la politique. Et que ce monde est sous le pouvoir de la politique. Le monde n'est pas sous le pouvoir de la politique. Le monde est sous le pouvoir de Dieu. Dieu contrôle tout. Dieu permet juste que les choses se passent ainsi pour que ses desseins s'accomplissent. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas embrasser ça. On doit être toujours connecté à Dieu et toujours chercher à connaître quelle est sa pensée. Quand le monde dit dehors crime rituel, toi, tu es dans la prière en train de chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Quand les gens m'ont dit, on va faire la marche en ville à cause des crimes rituels, stop, crime rituel, toi, tu dis, moi, je ne vais pas marcher. Si tu vois un frère en crise sur les photos, tu le vois à l'église dimanche, tu dis, frère, vraiment, il faut te repentir au nom de Jésus parce que je ne sais pas ce que tu faisais là-bas. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi le mode de pensée? Celui qui contrôle les médias, celui qui contrôle l'information et celui qui contrôle le système de pensée des gens. Et ça, le diable a compris. Et c'est pour cela que le diable a réussi à injecter ça dans l'Église. Et quand celui qui vous enseigne la parole de Dieu a embrassé ce système de pensée-là, ou bien est influencé grandement par le système de pensée de l'extérieur, ce qu'il va venir donner sur l'estrade, il ne va faire que vous transmettre ce qu'il a en lui. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux personnes que l'on écoute. Hier, à l'atelier, je disais qu'il y a trois personnes qui sont très importantes dans la société, qui influencent le plus la société. La première personne qui influence le plus la société, c'est le politicien, le décisionnaire, le chef de la nation. Il est le premier. La deuxième personne, ce sont les acteurs économiques, les entrepreneurs. Ce sont aussi les décideurs du pays. Ce sont eux qui tiennent la vie des gens entre leurs mains. Si eux, ils disent, on ferme boutique, tout le monde est au chômage. Donc, eux, ils sont très importants aussi. Et la troisième personne qui influence le plus la société, c'est le religieux, le pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est celui qu'on écoute tous les dimanches matin. Et même dans la semaine, sur CD, sur cassette et aux réunions de prière, tout ce que tu veux. Vous comprenez ou pas ce que je dis? C'est très important. C'est pour cela que quand quelqu'un me dit, oh, je suis fatigué, oh, il y a tel scandale dans l'église, etc. Mais sors de cette église, oh non, j'aime bien cette église, je vais rester là-bas. Oh. Fais gaffe, parce que tu risques d'avoir une manière de penser qui risque d'être erronée après. Pourquoi vouloir contrôler l'information? Simplement pour contrôler le monde. Simplement pour contrôler le monde. Et ça, le diable le sait. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle l'information contrôle les pensées, et celui qui contrôle les pensées contrôle la culture des gens, les valeurs que les gens ont embrassées. Toute la Bible, les évangiles, les enseignements de Jésus ne parlent que de culture. Quand Jésus-Christ dit « le royaume de Dieu est semblable à ceci, le royaume de Dieu est semblable à cela », il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler d'un pays, d'où il vient. Et il est en train de vous donner des images de son pays. Matthieu 5, sermon des béatitudes. On vous a appris que vous devez haïr vos ennemis. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. On vous a appris, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis que lorsque quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Car dans mon royaume, il y a une loi que l'on appelle la loi royale, livre de Jacques, chapitre 2. Il y a une loi que l'on appelle la loi royale, qui est la loi de l'amour. Dans notre royaume, on marche et on opère par l'amour. Donc, quand tu vois quelqu'un dans l'église qui est censé être dans le royaume et opérer avec l'amour, mais se comporter comme quelqu'un de méchant, sache que cette personne a un problème avec la loi du royaume, avec la culture du royaume. Il ne pense pas comme les citoyens du royaume. Amen. C'est très important. Donc, l'un des premiers ennemis que le diable enverra sur le chemin de ta destinée pour t'empêcher de réussir, c'est l'esprit de peur. C'est l'esprit de peur. L'esprit de peur est l'esprit qui règne en ce moment dans le monde. Les gens ont peur. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous avez vécu cette histoire-là. C'était sur dans tous les journaux il y a plus de 2 ou 3 ans. C'était aux États-Unis. Il y a eu une coupure générale dans toute la ville de New York. Tout d'un coup, plus d'électricité dans toute la ville. Vous savez ce qui s'est passé dès que l'électricité s'est coupée? Les gens ont commencé à crier dans tous les sens et à courir. C'était sur toutes les chaînes de télévision. Les gens pensaient qu'il y avait un attentat terroriste. Tout d'un coup, plus de lumière. Boum, tout le monde est dans le noir. Alors que eux, ils ont cru à un attentat terroriste et se sont mis à courir, nous au Gabon, la SEG, on est déjà habitués. Ce sont des terroristes installés dans notre pays, dans notre vie. Ils coupent le courant comme ils veulent. Dès qu'on dit boum, avant-hier, il y a 3 jours, il y a eu coupure de courant dans tout Angonjé. C'est-à-dire tout d'un coup, tout est devenu noir. Boum, on a juste entendu tous les Gabonais du quartier. Oh! Amen. La peur. Et l'esprit de peur est un esprit qui est présent, est un esprit que Satan voudra toujours injecter en toi pour t'empêcher d'opérer. Pourquoi? Parce que Satan sait que lorsqu'il a réussi à injecter la peur en toi, tu ne peux plus travailler. La peur Et la première raison d'échec dans la vie des gens, la première excuse que les gens vous donneront pour ne pas avancer dans la vie, c'est la peur. Les gens ont des rêves, des souhaits, des désirs, mais la plupart ont peur de les poursuivre. Pourquoi? Parce que les gens ont peur d'échouer. Les gens ont peur de l'opinion des autres. Les gens ont peur de se retrouver fauchés. On a parlé hier d'entrepreneuriat. La principale raison pour laquelle les gens n'entreprennent pas, c'est parce que entreprendre dit, il y a une forte probabilité que tu risques de laisser ton boulot en fait. Tu vas devoir certainement laisser ton travail. Ou bien tu vas devoir travailler à temps partiel. Qui dit temps partiel dit ton salaire divisé par deux. Est-ce que tu es prêt à faire ça pour t'engager dans ce domaine, l'entrepreneuriat? Beaucoup de gens te diront que c'est très bien l'entrepreneuriat, mais ils ne vont pas s'y engager parce qu'ils ont peur. Dès qu'il dit, c'est bon, j'y vais, il est à l'église, il fait tout type de prières, de déclarations, etc. Oh, nom de Jésus, Seigneur, tu es mon sauveur, tu es ma forteresse, avec toi j'avance, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et pas en bas. Dès que tu sors de l'église et que tu arrives là-bas à la barrière, Satan vient et puis il dit, bon, qu'est-ce que tu as dit à l'église là-bas? Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas faire ton histoire d'entreprise là. Hein? Tu vas arrêter ton boulot? Va. Tu vas voir, tu vas te retrouver sans argent. Qui va payer le loyer? Hein? Madame ne travaille pas. C'est toi qui vas payer. C'est elle qui va payer. Va laisser ton travail. On va voir. Et puis le projet finalement, tu mets dans le tiroir. Bon, je me calme d'abord. Eh ouais. La peur. La peur de ce que les autres ont pensé de toi. Moi, je suis issu d'une famille plutôt aisée, personnellement. Donc, le jour où je reçois mon appel pour devenir, pour faire l'église, dans le Gabon, là, faire une église avec l'image que les gens ont des pasteurs, l'esprit de peur vient se présenter chez moi et puis il dit, tu vas faire cette histoire-là? Église? Tu vas faire ça? Tu sais comment on voit les pasteurs ici? Ce sont des escrocs. Ce sont des charlatans, des violeurs. C'est l'image que tu vas avoir? Hein? Une fois, je disais à quelqu'un, me dit, oh, j'ai entendu que tu es pasteur, tu as monté une église. J'ai dit, oui, exact, effectivement. Donc, tu es dans ces choses-là aussi de Dieu. Hein? La manière dont elle te dit ça, si tu n'es pas sûr de toi, là, tu vas avoir peur. Donc, tu es dedans aussi, ces choses-là. Et puis, elle fait, vraiment. Ça veut tout dire. Mais si tu n'es pas sûr de ton couloir, tu vas renoncer. Oh oui, tu vas renoncer. Et il y a quelqu'un qui a connu ça dans la Bible. Il s'appelle Josué. Livre de Josué, chapitre 1, verset 5. Josué était un leader. C'est lui qui devait prendre le leadership du peuple d'Israël. C'était une lourde responsabilité. Et Dieu l'avait choisi pour conduire le peuple. Moïse venait de mourir et il devait prendre le leadership. Toute sa vie, il avait été préparé à ça. Sauf que le jour où Moïse meurt et qu'il doit prendre le leadership du peuple, boum! Sans même qu'il s'en rende compte, il a juste la peur qui monte dans son cœur. Ça nous est déjà tous arrivé. Vous êtes là, vous vous êtes préparé à faire un exposé ou bien vous devez intervenir en public. C'est ce que les gens du monde appellent le trac. Tu es là et puis tu es préparé, mais tu sais, tu as peur. Et puis on te dit, quand c'est comme ça, tu souffles un bon coup, tu parles. Si tu es dans l'église, on dit, va prier en langue. Mais tu as peur. Parfois, il y a des gens, quand vous les voyez prier, là, tu sais qu'il doit aller prêcher. Et puis, il est là, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare, je prophétise que ça va aller. En fait, il est en train de se convaincre que ça va aller. Il a peur, en fait. Il a peur. Parce que quand quelqu'un n'a pas peur, il est tranquille. Il est posé. Il a peur. Ou bien, tu dois te préparer. Ça va aller, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, je sais. Ou bien fait les 100 pas. Ok. Ça va aller, calme-toi. Il a peur. Et Josué a connu ça. Et la Bible dit, Josué 1, à partir du verset 5, version courant, durant toute ta vie, c'est Dieu qui lui parle, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Regardez bien ce qu'il lui dit, je l'ai mis en majuscule. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il rajoute encore, il te suffira, que quelqu'un dise, il te suffira. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui est écrit, Josué. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront, les projets que tu as en ce moment dans ton tiroir. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Et ensuite il dit quoi? Ne tremble pas, Josué, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Vous savez une chose, hein? Vous allez apprendre une chose avec Dieu, c'est que quand Dieu répète quelque chose trois fois, c'est que c'est sérieux. Quand Dieu répète la même chose trois fois, c'est que le cas est sérieux. Et si Dieu dit, ne tremble pas, c'est que le gars est en train de trembler. Version lui, second dit, ne t'effraie pas. Il était effrayé. Vous savez à quel moment il a été effrayé? C'est-à-dire, quand Moïse était mort, il a dit, Seigneur, Moïse, repose en paix. Dès qu'il sort de la tente, il voit plus d'un million de personnes qui sont juste là devant lui et qui attendent maintenant les ordres. Il est rentré dans la tente, la traque est montée d'un coup, et là, il est parti se prosterner. Oh Dieu, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et Dieu dit, ne tremble pas, Josué. C'est toi le chef maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut bien entrer dans le contexte. Et la peur l'avait saisi. Et Dieu savait que là, il avait un sérieux problème avec le jeune homme. C'est qu'il ne pouvait pas utiliser le jeune homme parce qu'il avait peur. Ses pensées étaient polluées. Le petit ne pouvait plus opérer. Les miracles qu'il avait fait avant, c'était fini. Le gars avait peur. Et là, quand c'est à ce niveau-là, il est capable de dire, Dieu, je renonce. C'est fini, j'abandonne tout. Comme Moïse a fait. Moïse voit un buisson ardent qui ne se consume pas. Il monte et puis... Dieu lui dit, Moïse, enlève tes chaussures, entre ici, celui est saint. Il entre, et quand il entend la voix de Dieu, Dieu lui dit, Moïse, c'est toi que j'ai suscité pour aller délivrer ce peuple. Vous savez quoi? Moïse se met à bégayer. C'était le problème de Moïse. Il bégayait. Moi. Il s'est mis à bégayer. Lisez l'histoire. Moïse était bègue. Et regardez, il se met à bégayer. Et deuxième chose, il dit, Non, pas moi. Il commence à discuter avec Dieu. Non, je n'y vais pas. Non. Dieu lui dit, mais tu connais ton appel, non? C'est toi celui qui va délivrer le peuple. Hein, Moïse? Non, je n'y vais pas. Dieu converse avec lui, Dieu discute avec lui. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu essaie de le convaincre que c'est toi qui dois aller délivrer les gens. Mais il refuse. Et lisez bien le passage, Exode 3. Qu'est-ce qui se passe? Dieu se mit en colère. Parce que le gars, il ne voulait pas. Il était tétanisé. Il dit, moi, tu m'envoies chez Pharaon? Pharaon, à l'époque, c'est comme si on te dit, aujourd'hui là, petit que tu es là, Dieu te dit dans ta chambre, tu vas aller au palais présidentiel, tu prends audience. Quand le président te reçoit, tu dis, tu quittes et tu démissionnes aujourd'hui, monsieur le président. Dieu m'envoie te dire ça. Le président, on connaît son caractère colérique là. Mais qui m'a envoyé cette personne? On y ouvre! Allez! Oui! C'est ce que Moïse, on lui avait demandé. Et il s'est mis à bégayer sur place. Et Dieu se met tellement en colère, malheureusement, il ne pouvait pas frapper Moïse, c'est lui qui avait le manteau. Il dit, bon, voici ton frère Aaron qui vient, et puis c'est lui qui va être ton prophète. Toi, tu donnes les ordres et Aaron parle. Voilà, tu me fatigues, Moïse. Et c'est ce qui s'est passé, Moïse donnait les ordres et c'est Aaron qui parlait. Et puis au cours de l'histoire, finalement, il a trouvé suffisamment de courage. Et puis lui aussi a commencé après à parler. Amen. La peur. Est-ce qu'on peut dire avec moi la peur? Et Dieu dit, le remède à la peur, le remède pour surmonter toutes les peurs que tu peux rencontrer, c'est sois courageux. Sois courageux. Il n'y a pas de prière contre la peur. Il n'y a pas de prière comme ça pour la peur. Dieu dit juste sois courageux. Tu veux lancer ton business, sois courageux. Tu veux t'engager dans une voie, sois courageux, parce que ce ne sera pas facile. Parce que la réalité va revenir devant toi et te dire, est-ce que tu peux? Sois courageux. Tu sais que tu es la première personne à te marier dans ta famille et on a toujours dit que personne ne se mariera. Et aujourd'hui, ton mariage suscite beaucoup de conflits. Et on te dit, ton mariage, on annule ça. Sois courageux et marie-toi. Parce que tu vas ouvrir la porte à beaucoup de gens derrière. Tu sais que tu es appelé au ministère pour prêcher l'évangile, sois courageux. Parce que tu sais que derrière, il y a des vies qui doivent être sauvées. Sois courageux. Moi, j'ai commencé les cultes ici avec ma femme et ma fille. Hein. C'était mes deux brebis. Hein? Et puis, je voyais ma fille qui m'en regardait avec de grands yeux. Hein. Elle dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Sois courageux. Et petit à petit, tu vois comment Dieu ouvre la route. On avance doucement. Mais il ne faut pas renoncer. Donc, en ce moment, il y a dans ton cœur un projet qui te demande de prendre des risques, de poser des actions. Mais tu sais que ça vient de Dieu, mais tu as peur. Sois courageux et sois fort. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu me dit de te dire ce matin. Ne sois pas effrayé. Quelle que soit la situation que tu traverses, sois courageux et fort. N'aie pas peur de ce que le monde veut te faire croire. Satan, c'est un menteur, c'est un usurpateur. C'est un menteur. Satan voudra toujours te faire croire que c'est impossible de réussir au Gabon. Il voudra toujours te faire croire que c'est impossible de réussir en dehors du fonctionnariat. Il voudra toujours te faire croire que c'est impossible d'entreprendre dans notre pays et de prospérer. Il voudra toujours te faire croire que c'est impossible de se marier et de bâtir un foyer heureux à la gloire de Dieu. Parce que tous les foyers autour de nous, en général, il y a des problèmes. Bien, monsieur a toujours un deuxième bureau. Bon, maintenant, on trouve des femmes aussi qui ont des deuxièmes bureaux. Mais toi, tu dis, moi, je vais avoir un mariage à la gloire de Dieu. Pas de problème. Je bâtis un foyer solide, efficace, assis sur la parole de Dieu. Je prospère, mes enfants prospèrent. Quand la tentation arrive, je dis, non, moi, j'ai qu'une seule femme. Oh, laisse ça. J'ai qu'une seule femme. Alors que le monde, la culture du monde dehors te dit, il faut que tu aies toujours un deuxième bureau. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a sorti, mais c'est ma roue de secours, non? J'ai dit, mon Dieu, comment tu peux parler comme ça d'une personne? Non, mais au cas où ma femme un jour divorce, j'ai ma roue de secours. Ah! Il est païen, il n'est pas chrétien, heureusement. Ah oui. Satan voudra aussi te faire croire que c'est normal non seulement d'avoir un deuxième bureau dehors, mais c'est normal aussi de se séparer de sa femme. C'est normal. On s'est marié et puis comme on est venu, on repart. Bon, chacun de son côté. C'est normal. Satan voudra te faire croire que c'est normal de voler et de mentir lorsqu'on arrive à une position élevée. Voilà. Gloire à Dieu. Demain, boum, nomination. Tu es bombardé, ministre. Première chose que tu fais, dès que tu arrives, bon, emmenez-moi les clés du coffre, là, le budget où? Tout de suite, tu t'intéresses déjà au budget. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu cherches déjà à apprendre. Non! Ça, ce n'est pas normal dans le royaume. Dans le royaume, en tant qu'homme intègre, fils du Très-Haut, le poste dans lequel tu es, tu te concentres sur ton travail et tu te contentes du salaire que l'on te donne et des bonus. Le reste, ça ne t'appartient pas. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Amen. Donc, ne t'attache pas à ce monde. Ne t'attache pas à sa culture, car elle n'est pas de Dieu. Et toute personne qui embrasse la culture du monde n'a pas d'héritage dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal avec ça. Ils ont du mal à abandonner la culture du monde. Trop d'enfants de Dieu sont attachés aux choses du monde. Vous allez dans des foyers chrétiens et vous voyez qu'ils prennent plaisir à regarder certaines émissions à la télévision. Moi, je vois ça souvent. Je vais chez des chrétiens et puis ils sont là, ils regardent des émissions, on parle d'homosexualité. Ah, ça les fait rigoler. Ah, oh, t'as vu? Ah, non, ça ne doit pas te faire rigoler. Ça ne doit pas te faire rigoler. Demandez à ma femme, moi, dès qu'il y a un truc bizarre à la télé, tchip, je change. Tchip, je change. Parce que je fais attention à mes pensées. Très attention à mes pensées. Je fais très attention. Sinon, ça risque de rentrer et de m'influencer. Vous n'avez pas remarqué que quand vous rentrez dans certains magasins, vous entendez toujours souvent une petite musique qui tourne. Vous n'avez jamais entendu ça, vu ça. Et puis quand vous sortez du magasin, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de chanter la chanson. Non, 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 non. Mais c'était la chanson. Oh, mais pourquoi je chante ça? Oh? Parce que c'est rentré. C'est pour t'emmener à penser comme eux y pensent. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 16, au verset 33, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, « Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. » Mais courage. J'ai quoi? J'ai vaincu le monde. Ton système de pensée n'est pas et ne doit pas être soumis à ce monde, mais plutôt à celui du royaume. Et le monde en question, ne t'inquiète pas, Jésus-Christ a vaincu déjà. Tout ce que tu peux voir à la télévision concernant le monde, même les problèmes les plus graves, sache que Jésus-Christ a déjà réglé ça. Ah. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il me dit, tu sais, en ce qui concerne l'évangélisation, il y a un dossier qui est très compliqué. J'ai dit lequel? Il me dit, tu sais que les musulmans, c'est compliqué. Tu vas faire comment pour convertir les musulmans? tu vas faire comment pour convaincre? Je lui ai dit, le cas des musulmans est déjà réglé. Quel cas des musulmans est déjà réglé? Tu vois pas comment ils sont dans le monde plein, plus d'un milliard de musulmans? Jésus a réglé le cas des musulmans. Vous voulez que je vous dise quand? Lisez la Bible. La Bible dit, Jésus arriva à Jérusalem. Quand il arriva à Jérusalem, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Allez dans le village d'à côté, là-bas il y a un ânon sauvage qui est attaché. » Vous direz à son... Quand on vous demandera, « Pourquoi prenez-vous cet ânon ?» Et vous direz, « Le maître le demande. » Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Jésus monta sur l'ânon et entra dans Jérusalem assis sur l'ânon. Et pendant qu'on jetait les fleurs en disant, « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » L'ânon, bête comme il est, comme un ânon, il pensait que c'était à lui qu'on jetait les fleurs. Mais c'est à Jésus qu'on jetait les fleurs. Et Jésus l'avait déjà soumis. Et l'ânon, c'est qui? Je vous ramène dans Genèse. Le premier fils d'Abraham s'appelle comment? Ismaël. Et vous savez, quand Ismaël arrive au monde, vous savez ce qu'Abraham, la parole qu'Abraham déclare sur Ismaël, c'est écrit dans Genèse. Abraham dit, c'est un ânon sauvage. Et l'ânon sauvage en question, Ismaël, c'est celui que Jésus-Christ soumet. Spirituellement, le cas des musulmans est déjà réglé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Jésus a déjà réglé. Ismaël a été appelé ânon sauvage et Jésus-Christ, avant de rentrer à Jérusalem, pourquoi Jésus va prendre un ânon? Il peut marcher? Pourquoi il va chercher l'ânon avant de rentrer dans la cité divine? Il dit, allez me prendre, il y a un ânon sauvage là-bas qui est attaché. Et quand on vous demandera, pourquoi le prenez-vous, dites que le maître le demande. Quand Jésus-Christ va revenir à sa seconde venue, le cas des musulmans est déjà réglé. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête avec les musulmans. Oh, il y a un milliard de musulmans qui va aller en enfer. Jésus a déjà réglé leur cas. Quand il va revenir, ils ne vont rien comprendre, ils vont tous se prosterner devant lui. Gloire à Dieu. On avance. Donc rassure-toi, tout est sous le contrôle de Dieu. Depuis le jour où tu es né de nouveau, tant que tu restes dans l'alliance, tant que tu restes attaché à Dieu, tant que tu restes obéissant à ses commandements, quel que soit ce qui peut arriver sur ta route, même si l'esprit de peur se présente à toi, tant que tu restes obéissant et que tu embrasses la culture de Dieu, tu réussiras. Amen. Gloire à Dieu. L'alliance que nous avons avec Christ, tout ce qu'il y a dans l'alliance que nous avons avec Christ, tout a déjà été accompli. Jésus-Christ ne prononce pas cette parole par hasard lorsqu'il est à la croix et qu'il dit « Tout est accompli ». Quelle que soit la promesse, quel que soit le domaine dans lequel tu veux opérer, tu as juste à aller dans la parole, dans le livre de l'alliance et de regarder la promesse qui y est attachée et tu opères avec. C'est ce que Jésus-Christ a appelé les clés du royaume. Tu as juste à trouver la clé qui ouvre la porte dans laquelle tu veux entrer. La Bible nous parle de clés. Jésus-Christ dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux et tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Dieu vient de te donner une clé très puissante. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux opérer, quel que soit le projet que tu veux lancer, quel que soit l'engagement que tu veux prendre avec le Seigneur, trouve juste la clé et opère, c'est tout. Parce que nous avons aujourd'hui une alliance en Christ. Le problème maintenant que Dieu a avec nous, c'est que malgré l'alliance, si notre manière de penser est différente de lui, il ne peut pas opérer. C'est pour cela que la Bible dit « deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord avant ». Et Dieu a besoin que tu lui dises, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dieu vient se présenter à Marie et il dit, Marie, une grâce t'a été faite. Tu as été choisie parmi beaucoup de femmes. C'est toi qui vas porter le Fils de Dieu, celui qui va venir sauver Israël. Ange Gabriel est là maintenant. Maintenant, il attend la validation de la dame. Le problème avec les enfants de Dieu dans les églises, quand ils reçoivent ce type de parole, c'est qu'ils tombent. Boum, oh, il a déclaré. Je suis tombé. Non, avant de tomber, attends d'abord. Dis d'abord, comme Marie, que ta volonté soit faite, et ensuite la parole s'accomplit, ensuite tu peux tomber. Marie dit, elle ne commence pas à dire, ah, comment le Seigneur va faire? Oh, etc. Elle pose la question, oui, comment le Seigneur va faire? Et il dit, oui, par le Saint-Esprit, etc., tu deviendras enceinte. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par se plaindre ou elle commence par raisonner. Elle dit juste que la volonté du Seigneur soit faite et la parole s'accomplit. Et parce que nous, nous avons une alliance avec Christ, avec Dieu, tout ce que Dieu dit à ton sujet dans la Bible, et c'est pour cela que c'est important de lire la Bible, tout ce que tu as à faire, c'est de le lire et de l'accepter. Le problème aujourd'hui que nous avons avec Dieu, c'est qu'on n'a pas accepté tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, au verset 9, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. C'est un verset qui a transformé ma vie. Parce que je suis allé chercher la signification de ce verset en grec. Et vous savez ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que le mot béni ici vient d'un mot grec que l'on prononce elogio, qu'on en a traduit du latin en français éloge. Ça veut dire que Dieu, lorsque tu viens au monde en Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te prend et puis Dieu commence à déclarer de bonnes paroles sur ta vie. Et il dit que toutes ces paroles, s'il l'accepte dans sa vie, elles vont s'accomplir dans sa vie. Dieu dit que tu es un roi, tu es appelé à réussir. Dieu dit que tu es père des nations. Dieu dit qu'il va rendre ton nom grand. Dieu dit que la prospérité sera attachée à tes pieds. La faveur divine repose sur ta vie. Où que tu ailles, toute terre que la plante de ton pied foule, Dieu dit, je te la donne. À l'heure où je vous parle, j'ai dit, la terre sur laquelle on est là, elle nous appartient, au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment on va faire, mais elle nous appartient. Marche comme ça, accepte-le et opère par la foi. Mais quand tu commences à te plaindre, ça va te poser des soucis. Et on va finir avec ça. C'était le problème que Dieu avait eu avec un gars que l'on appelle Job. Job, au lieu de prendre les paroles de Dieu et de les déclarer sur sa vie, le problème de Job, c'est qu'il déclarait le contraire. Regardez ce qui se passe avec Job. Job 1, à partir du verset 4. Job fait des choses ici qui sont très dangereuses pour sa vie. La Bible nous dit, à partir du verset 4, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être, que quelqu'un dise peut-être, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Il avait coutume d'agir. Il avait coutume de dire que mes enfants ont certainement péché, je vais offrir une offrande à Dieu. Et il se levait de bon matin tous les jours. Ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'est qu'à force de faire ça, et à force de croire que ses enfants avaient péché, il a fini par mettre sa foi là-dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ses enfants sont tous morts. Tous. Les hommes comme les garçons. Ils sont tous morts. Job se plaignait. Après cet événement terrible de la mort de tous ses enfants, il a continué à se plaindre au lieu de se tourner vers Dieu. Et dans ses plaintes, il déclare Job 3, 25, je crois. Ah, je sais plus. Il déclare dans Job 3, 25, il déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous ne connaissez pas ce verset? Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et c'est le problème. Si tu ne change pas ta manière de penser. Si tu n'embrasses pas la culture du royaume et que tu continues à embrasser la culture du monde et à parler comme les gens du monde, tu risques de te retrouver à déclarer des choses sur ta vie contraires à la parole de Dieu et de les voir arriver dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que Satan viendra toujours, quand il te voit commencer à opérer, il viendra toujours te souffler des choses dans ton oreille pour que tu commences à dire le contraire de ce que Dieu t'a demandé. Ça ne vous est jamais arrivé, particulièrement pour les mamans? Bon, va m'acheter le pain là, chez le Malien, va m'acheter le pain. Oh, quand tu sors là, faut pas te faire écraser par une voiture. Hein? Tu viens de déclarer une parole et boum, on va se faire écraser par une voiture. Ou bien sûr, ta propre vie. Ah, je suis trop bête, je suis nul. Je suis nul. Ah, un nulard comme moi, un pauvre type comme moi. Une fois, je pars avec quelqu'un, j'arrive au travail et puis je dis, comment tu vas? Ah, tu sais, nous, les pauvres types là, c'est compliqué. Je dis, arrête de dire que tu es pauvre. Tu vas rester pauvre toute ta vie si tu continues à dire ça. Dis que tu es riche. Oh, je suis riche. Dis que tu es riche. La Bible nous dit que le pauvre dit ce qu'il est et que le faible dit ce qu'il est. Quand tu es faible, je suis fatigué. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église hier? Ah, j'étais fatigué. Ah, vraiment. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, il y avait la pluie. Ah, la pluie là, vraiment mal. C'est la pluie qui t'a empêché de venir. Depuis quand la pluie tue les gens maintenant? Ah, je suis fatigué. Ah, en ce moment, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Mais à quoi tu es malade? Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais dis que ça va. Ça ne va pas. Bonjour, comment tu vas? Oh, un peu. Arrête, dis très bien. Pourquoi tu dis un peu? Oh, un peu. Fais très attention. Parce que Dieu dit, quand Moïse vient voir Dieu et lui dit, qui dois-je annoncer à ton peuple? Dieu dit, va leur dire, je suis. Je suis, trois petits points. Tout ce qu'il veut que je sois pour eux, je le suis. Et Dieu dit, Romains 8, verset 11, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Ça veut dire que je suis habite en toi. Tu n'as pas remarqué que quand tu parles, s'il y a bien deux mots que tu utilises le plus dans la journée, c'est je suis. Donc quand tu commences à dire, je suis fatigué, tu es fatigué et tu seras fatigué. Je suis faible, je suis pauvre, je suis bête, tu es bête. Tu vas finir par être bête à force de dire ça. Dis, je suis très intelligent. Ma fille, tout le temps. Ma fille, vous savez, c'est quoi son prénom? Princesse. Pourquoi tu m'appelles princesse? Parce que tu es une princesse. Et elle, quand elle allume la télévision, elle ne regarde que des dessins animés de princesses. Enlève-lui ces dessins animés de princesses, il y a un problème dans la maison. Parce qu'elle se voit comme une princesse. Et je lui dis, dis que tu es intelligent. Je suis intelligent. Dis que tu es la plus intelligente. Je suis la plus intelligente. Oui, c'est ça. Et tu t'appelles comment? Kaela Ondia Suna. Et tu es la plus intelligente. À force de lui dire ça, la maîtresse, quand je viens la chercher à midi, elle est quand même dit, votre fille là, elle est trop remplie d'elle. Hein? Trop d'assurance, vraiment. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Amen, gloire à Dieu. Et Job, malheureusement, n'avait pas compris cela. Et la réussite, c'est quelque chose que l'on attire dans la vie par les paroles et par l'attitude que l'on adopte. Quand tu adoptes une attitude, quand tu veux quelque chose, embrasse la chose dans l'esprit et commence à déclarer la chose par la foi. Quand tu veux quelque chose, même si tu ne l'as pas, tu le déclares déjà dans ta vie. Aujourd'hui, en ce moment, je n'ai pas de voiture. Avec ma femme, on n'a plus de voiture. Mais à chaque fois qu'on marche, je dis, Seigneur, merci pour la voiture. Merci pour la voiture que tu me donnes. Pas la voiture qui sort des... Non, la voiture. Il ne faut pas dire que le pasteur est devenu orgueilleux demain. Parce que j'ai déjà appelé la voiture à l'existence. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains que Dieu est celui qui appelle les choses qui sont mortes à l'existence. Ce qu'il ordonne arrive. Et c'est ça qu'il t'a donné. Et c'est comme ça qu'il faut prier, c'est comme ça qu'il faut marcher. C'est dans la culture du royaume. Dans la culture du royaume, le juste vivra par la foi. Et la foi est la démonstration des choses que l'on ne et que l'on espère. Et quand tu marches par la foi, tu déclares les choses. Tu veux avoir un enfant, tu le déclares. Seigneur, merci pour l'enfant. Tu lui donnes même un nom déjà. Merci pour l'enfant. Il s'appelle tel. Il s'appelle tel. C'est un beau garçon. Il est intelligent. Il est comme ci, il est comme ça. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Pourtant, tu n'es pas enceinte. Hein? Mais tu déclares. Seigneur, merci pour l'enfant. Je déclare avant la fin de cette année que cet enfant arrive à l'existence. Seigneur, les médecins ont diagnostiqué la stérilité dans mon corps. Mais toi, tu es le médecin au-dessus de tous les médecins et j'accepte ton pronostic qui dit que la stérile sera une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est écrit dans la Bible. Et je marche par la foi et tu attends l'enfant. Tu sais ce que tu fais encore? Tu vas plus loin. Tu prépares déjà la chambre de l'enfant. Tu mets le papier peint, tu achètes le berceau, tous les habits. Et les gens vont dire, oh, ma femme, elle est devenue folle. Je ne suis pas folle. Je prépare l'arrivée de l'enfant. Mais enfin, il est déjà là. Dans l'esprit, il est là. Gloire à Dieu. Je voudrais que... Regarde ce que nous dit David. David connaissait ces choses. David nous dit dans le psaume 27. Ah, je ne l'ai pas écrit. C'est psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et Dieu, voulant opérer dans la vie de Job... Voyant ces problèmes, Dieu un jour vient voir Job et dit à Job ceci. Dieu dit à Job, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Job 38 au verset 12. Ensuite il dit, depuis que tu existes, Job, as-tu commandé au matin? Si tu dis j'ai levé le matin, puis tu commences le matin. Je déclare que ma journée est belle. Je déclare que je réussis tous mes rendez-vous. Je déclare que je ne suis pas fauché. J'ai de l'argent, mon compte en banque est rempli. Je déclare qu'avant la fin de ce mois, je paye mon loyer. Je ne sais pas comment, mais il est payé. Il est payé. Je marche par la foi. Dieu prend soin de moi. Tu déclares les choses. Tu déclares. As-tu déjà commandé au matin, Job? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu sais que tu es capable de montrer ta place à l'aurore? Dieu parle à un homme là. Et Josué l'a expérimenté dans la bataille de Gabaon. Là, il dit que Josué ordonna au soleil, tu t'arrêtes. Et c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'humanité où Dieu a écouté un homme. Et tout, le soleil s'est arrêté pendant 2 jours. Il ne faisait pas nuit, parce qu'il avait déclaré. Et puis Josué, après être fatigué, a dit, bon, soleil, retourne te coucher. C'est ce que Dieu nous a donné. Les paroles que l'on déclare. Amen. Et ces paroles, elles sont issues de quoi? De nos pensées. Et Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui ne glorifie pas Dieu, toute pensée qui t'empêche de penser normalement, toute pensée qui te dérange, toute pensée qui te trouble, tu dis le contraire. Ce que tu ne veux pas, tu déclares le contraire. Tu déclares ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et tout ce que tu le dis dans le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a reçu autorité comme mon nom. Le nom de Jésus-Christ, un jour je vais enseigner là-dessus, c'est le plus bel héritage que Dieu nous ait donné. C'est trop fort le nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, les cieux s'arrêtent pour écouter ce que tu vas dire ensuite. Dès que tu ouvres la bouche et que tu dis « Père, au nom de Jésus », les cieux s'arrêtent. C'est biblique. Peut-être que tu ne le vois pas de tes yeux, mais chaque fois que tu dis ça, au nom de Jésus, sache que ce que tu vas dire, si tu as suffisamment de foi dedans, ça va se passer, ça va arriver. C'est pour cela que Jésus-Christ dit « Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu en mon nom. Tout ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. » Amen. C'est une clé. Je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît. La Bible nous dit dans Matthieu 18:18 que, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et je voudrais que tu répètes ces paroles après moi. Tu vas faire cette parole de déclaration. Tu vas penser à ta vie. Tu vas penser en ce moment à la montagne qui se tient devant toi. Tu vas penser à ton foyer. Tu vas penser à tes enfants. Tu vas penser à ta carrière professionnelle. Tu vas penser à tous les projets que Dieu a déposés dans ton cœur. Tu penses à ta vie et tu répètes après moi. Père, au nom de Jésus, je déclare que je suis béni. De la bénédiction de Christ qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je déclare que tes pensées sont mes pensées. Toute pensée négative, toute pensée de peur, toute pensée d'échec, toute pensée de crainte et d'intimidation sont bannies en moi au nom de Jésus. Je chasse de mon esprit toute pensée qui ne glorifie pas Christ dans ma vie. Je suis fils de Dieu et j'ai la pensée de mon Père céleste. Désormais, la culture du royaume de Dieu est ma culture. Et toute pensée impure qui me maintenait esclave de la pensée du monde, je la détruis définitivement. Au nom de Jésus, je suis libre en Christ et je pense comme Christ. Ma culture est celle du royaume de Dieu. Je marche dans la pureté. Je marche dans la sainteté. Je marche dans l'intégrité. Je marche dans la droiture. Satan est un menteur. et ces mensonges n'ont plus d'accès dans ma vie. Désormais, au nom de Jésus, le salut de Dieu en Christ est mon partage. Et il sera toujours mon partage. Merci Saint-Esprit de me conduire sur le chemin de ma destinée en Christ. Tu es mon protecteur, mon conseiller, mon enseignant et mon meilleur ami. Je réussis dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus, la faveur divine repose sur ma vie et sur toute ma maison. Tout ce que je touche est béni. Mon foyer est béni. Mon mariage est béni. Mes enfants sont bénis. Mon ministère est béni. Tout ce qui sort de mes entrailles est béni. Mes projets sont bénis. Et tout ce qui sortira de moi sera toujours béni. Au nom de Jésus, parce que la faveur divine repose sur ma vie. Je le crois, je le confesse et je le scelle dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. 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 Amen.
Que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.